France Inter, il sera à 13h dans quelques secondes. C'est l'heure de votre journal, Frédéric Barrère.
Bonjour. Victoire écrasante du non à l'indépendance avec 96,49% des votes et une abstention record lors du troisième référendum. Aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, les indépendantistes avaient annoncé qu'ils ne se rendraient pas aux urnes. Quels enseignements tirer de ce scrutin ? Emmanuel Macron va s'exprimer dans quelques instants. Une période de transition de 18 mois va maintenant s'ouvrir. Nous irons d'abord à Nouméa et invité de ce journal, Jean-François Merle, ancien conseiller de Michel Rocard, lors des accords Matignon. L'actualité, c'est également les tornades dévastatrices aux États-Unis. Le bilan provisoire est de 83 morts. Certaines villes ressemblent à des zones de guerre. Les secours sont à la recherche de survivants. Dans ce journal également, l'indemnité inflation et les premiers versements effectués dès demain et du sport de la Formule 1 avec le Grand Prix d'Abu Dhabi et le duel Verstappen-Hamilton, la météo classique du soleil au sud de la grisaille au nord. Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition.
France Inter.
Le non à l'indépendance l'emporte donc de manière écrasante en Nouvelle-Calédonie. 96,49% des votes pour le non, donc selon les résultats définitifs. Mais il faut aussitôt ajouter que la participation est en chute libre selon les derniers chiffres, les dernières informations données à 7h, heure de Paris, soit 2h avant la fermeture des bureaux de vote. La participation à 7h donc était en forte baisse. Elle s'établissait à 41,6%, alors qu'en 2020, à la même heure, la participation était de 80%. Emmanuel Macron, je vous l'ai dit, va s'exprimer dans quelques minutes sur ses résultats. On va y revenir rapidement, mais d'abord, on se rend à Nouméa. On retrouve notre envoyé spécial. Bonjour, Sandrine Etoa-Andegue.
Bonjour, Frédéric.
Il est 23h hein, en Nouvelle-Calédonie. Dans quelle ambiance s'est déroulé le vote aujourd'hui et comment sont accueillis les résultats ce soir ?
Écoutez, ce scrutin s'est déroulé dans le calme, hein, sous une chaleur écrasante en ce premier week-end des grandes vacances. Écrasante aussi cette victoire, c'est ce que répètent les loyalistes qui ont fait la fête à la province sud tout à l'heure. Petit four, champagne et comité restreint à cause de la crise sanitaire. En tout cas, ils ont fêté cette victoire. Ils le répètent, elle n'est pas moins belle malgré cette faible participation. Trois victoires en trois ans, c'est tout ce qu'ils veulent retenir.
Ah, c'est encore une victoire encore plus belle pour nous. On s'est tous mobilisés, les électeurs du non se sont mobilisés. Je crois qu'aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie, elle montre une fois de plus qu'elle souhaite rester française. C'est complètement une page qui se tourne. Moi, j'ai 23 ans. Nous, la jeunesse, on attendait qu'une chose, connaître notre avenir. Et là, ça y est, on est fixé. On sait qu'on va pouvoir investir dans notre pays. On sait qu'on va pouvoir y rester. Grâce à la France va nous accompagner jusqu'au bout. Donc, on est très heureux.
Voilà Yann, jeune loyaliste qui raconte avoir chanté la Marseillaise le cœur léger tout à l'heure. Une autre ambiance dans le quartier Montravel où je me trouve, quartier populaire dans l'agglomération de Nouméa. Je suis à côté de Florenda. Florenda, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes une jeune indépendantiste et vous avez été votée malgré la consigne des leaders indépendantistes. Pourquoi déjà et puis comment vous vous sentez ce soir ?
Alors du coup, moi j'ai été votée parce que du coup, je suis l'axe d'éducation de l'article 3 de la Constitution de la République de Canada qui déposée en 1987 qui dit « Le droit de vote est libre, égal, universel et obligatoire ». Donc ça fait depuis 8 ans que je sers cet axe d'éducation-là et je suis disciplinée pour aller voter.
Quel est votre sentiment ce soir ?
Ben mon sentiment, la victoire de toute manière du non, on s'attendait de toute manière, on va pas s'attendre à... un sentiment je reste sur ma faim parce que du coup j'attends la suite maintenant.
Voilà la suite qui est donc entre les mains des leaders indépendantistes, Frédéric.
Et désormais, Sandrine va s'ouvre une période de transition de 18 mois pour arriver avant l'été 2023 à un référendum de projet cette fois et les discussions vont s'annoncer difficiles avec les indépendantistes.
Oui, pour deux choses, parce que, un, ils l'ont répété, ils ne reconnaissent pas la légitimité de ce scrutin. Et la deuxième chose, c'est qu'ils disent ils ne vont pas négocier avec l'équipe actuelle, le président qui est en place. Ils vont attendre l'élection présidentielle. Peut-être que ce sera Emmanuel Macron qui sera réélu, mais en tout cas, ils vont négocier avec la nouvelle équipe, la prochaine équipe.
Sandrine Etoa-Andegue avec votre invitée Florenda, indépendantiste en direct de Nouméa. Merci. Une première réaction, celle de Jean-Luc Mélenchon, candidat candidat de la France insoumise à la présidentielle. Il était l'invité de Questions politiques juste avant ce journal. Et pour Jean-Luc Mélenchon, ce référendum n'est pas valide. On l'écoute.
Et avec le bulletin, non. Non à l'indépendance, puisque la partie indépendantiste, elle, a décidé de ne pas participer à cette élection.
Est-ce que ça invalide le référendum ?
Bien sûr. Pour que les indépendantistes entendent qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'il y a une parole française qui veut rester fidèle à la ligne qui a été tracée sous la présidence de François Mitterrand par le Premier ministre Michel Rocard. Je suis toujours sur cette ligne. Je pense que c'est aux deux parties de s'accorder sur les dates et les formes des élections. Sinon, nous sommes revenus à la case départ, c'est-à-dire à celle dans laquelle on était en 1987. Les indépendantistes ne reconnaissent pas un résultat, donc ne reconnaissent pas la légitimité du pouvoir. Les autres de l'autre côté vont dire, bah alors si c'est comme ça, il n'y a aucune élection qui vaut rien. Si on repart dans cette logique, on retourne à la confrontation. Je rappelle que en Calédonie, les choses ne sont pas toujours réglées à coup de bulletin de vote, hein.
Jean-Luc Mélenchon, le candidat à la présidentielle de la France insoumise dans Questions politiques à l'instant. Invité de ce journal, Jean-François Merle, témoin et acteur des accords Matignon, ancien conseiller technique chargé de l'outre-mer de Michel Rocard. Bonjour Jean-François Merle.
Bonjour.
Votre commentaire sur ce résultat, donc le non l'emporte, le non à l'indépendance l'emporte, donc avec une participation très très faible.
Oui, la participation est... Le résultat définitif est connu maintenant, elle est inférieure à 44%, ça veut dire que moins d'un électeur sur deux est allé voter. Donc quel sens donner à ce résultat ? Le problème d'un scrutin, c'est pas le taux de participation qui compte, c'est l'acceptation par tous du résultat. Or là, on savait d'avance que ça ne serait pas le cas, puisque les indépendantistes avaient remis en cause les conditions de date et d'organisation du scrutin. Donc c'est un coup pour rien, et c'est un coup pour rien qui en plus aura des conséquences, parce qu'il rend beaucoup plus difficile les discussions sur le jour d'après.
Un coup pour rien, vous dites, on a entendu un jeune indépendantiste avec Sandrine Etoua-Andegh juste avant au début de ce journal qui disait au moins c'est clair maintenant, on est sorti des accords de Nouméa, on va pouvoir construire, on va pouvoir avancer.
Oui, ben on va pouvoir avancer sur rien du tout parce que pour avancer, il faut être deux.
J'ai dit indépendantiste, pardonnez-moi, c'était loyaliste, excusez-moi, hein, c'était oui, quelqu'un qui avait fait en faveur voilà,
du maintien. Pour avancer, il faut être deux et le problème d'un certain nombre des loyalistes, c'est qu'ils continuent à vivre dans un pays d'où les Kanaks sont absents au moins dans leur imaginaire. Il y a un historien calédonien, Louis-José Barbançon, qui disait ce dont il rêve, c'est le pays sans nous les Kanaks. Et ça, c'est terrible, parce que bien sûr qu'il va falloir que les discussions reprennent, mais ce que le coup pour rien a fragilisé, c'est les relations de confiance. Là, aujourd'hui, les relations de confiance ou de respect entre le gouvernement et les leaders indépendantistes est très abîmée.
Vous nous dites un coup pour rien, donc ce référendum ne règle rien, il ne prouve rien.
En regardant les résultats, qu'est-ce que vous voulez en conclure ? Que la Nouvelle-Calédonie est contre l'indépendance, mais les indépendantistes n'ont pas voté, donc si on additionne les non-participants et les votes oui, ça fait une majorité pour l'indépendance. Ces résultats ne signifient absolument rien.
Jean-François Merle, alors Emmanuel Macron devait s'exprimer à 13h, visiblement l'allocution prend un peu de retard, mais on sait que la France va donc reprendre l'initiative dès maintenant avec un dialogue qui va reprendre pour une période de transition qu'on nous a annoncé de 18 mois, qui marque donc la fin des accords de Nouméa. Et les discussions doivent porter sur la poursuite d'une identité partagée en Nouvelle-Calédonie, une identité irriguée par la culture kanak.
Bah, écoutez, encore une fois, après se coupe pour rien. Il faut bien en effet que les discussions reprennent. Mais je pense qu'elles ne vont pas reprendre tout de suite. Les indépendantistes ont dit qu'ils ne voulaient pas discuter avec l'équipe gouvernementale actuelle. Et puis on va rentrer dans une période de campagne électorale où les loyalistes vont seront dans une position de radicalité parce que leur enjeu, ça sera les élections législatives de juin 2022. Donc la réalité, c'est qu'il ne va pas se passer grand-chose avant l'été 2022. Alors après, oui, les discussions vont reprendre. Il faut souhaiter qu'elles soient positives, mais qu'est-ce que vous voulez? Là, on est dans une situation où il y avait deux équipes sur le terrain de football. Il y en a une qui constate que sa partie du terrain est complètement endommagée et qu'en plus l'arbitre a un peu tendance à jouer avec l'autre équipe. Donc forcément, ils n'ont pas voulu continuer le match.
Jean-François Merle, merci beaucoup, ancien conseiller technique chargé de l'Outre-mer de Michel Rocard. Merci à vous, Jean-François Merle. L'actualité à la mi-journée, marquée également par les tornades historiques aux États-Unis, des tornades en série qui ont laissé une traînée de destruction dans 6 États du centre-est, et le bilan est très lourd, au moins 83 morts, des dizaines de disparus. Certains États ou certaines villes ressemblent à des zones de guerre. En direct de New York, on retrouve l'un de nos correspondants. Bonjour Loïc Loury.
Et bonjour Frédéric.
Alors le président Biden hier a parlé d'une tragédie inimaginable, et à l'instant, je le signale, le président russe Vladimir Poutine adresse ses condoléances sincères à Joe Biden.
Oui, une tragédie, effectivement, 83 morts, vous le disiez, jusqu'à présent, mais ce bilan est toujours très provisoire, d'immenses destructions, des centaines de milliers de personnes sans électricité. C'est toute une partie de l'Amérique, du centre et du sud, Frédéric, qui est en train de se réveiller pour le deuxième jour de suite face à un paysage abîmé, parfois dévasté. Une trentaine de tornades, on le rappelle, ont parcouru 6 États différents. L'une des pires séries de tornades de l'histoire des États-Unis, disait hier Joe Biden, le président qui affirme suivre la situation de près, à assurer aux gouverneurs concernés du soutien des autorités fédérales. Il pourrait aussi se déplacer dans le Kentucky, l'état le plus touché dans les prochains jours, mais, disait-il hier, il ne s'y rendra uniquement que lorsqu'il ne sera pas avec l'impressionnante escorte qui l'accompagne, synonyme de gêne pour les secouristes au travail.
Et justement, Loïc, l'urgence maintenant, c'est de retrouver des survivants, et c'est extrêmement compliqué en raison de l'ampleur des dégâts.
Oui, et tout particulièrement à Mayfield, cette ville du Kentucky partiellement ravagée dont on parle beaucoup depuis hier. Environ 70 morts pour l'instant, notamment dans l'effondrement d'une fabrique de bougies réduite littéralement en miettes. Les secouristes parlent d'un enchevêtrement de béton, de métal jonché de voitures, de barils pleins d'un liquide corrosif. Les recherches devraient durer encore 3 jours, affirment les autorités. Mais le gouverneur du Kentucky ne s'est jamais montré, à vrai dire, très optimiste, et il estime que le bilan devrait dépasser les 100 morts dans son état. Ailleurs, les dégâts sont aussi considérables. Des morts recensés dans l'Arkansas, le Missouri, le Tennessee et l'Illinois, où c'est un entrepôt d'Amazon qui s'est partiellement effondré. 6 personnes y ont perdu la vie. Et là aussi, Frédéric, les secouristes ne s'attendent pas à trouver d'autres survivants.
Loïc Loury, correspondant de France Inter à New York, merci. Le coup de pouce aux ménages pour compenser la hausse généralisée des prix, l'indemnité inflation de 100 euros avec les premiers versements dès demain. Cette aide destinée à 38 millions de personnes sera d'abord versée aux étudiants boursiers. Elle s'étalera jusqu'à la fin du mois de février pour les retraités. L'indemnité inflation de 100 euros, annoncée en octobre dernier, sera défiscalisée et versée en une fois, Anne Soubiron.
Ce sont donc dès demain les étudiants boursiers ou bénéficiaires d'APL qui vont toucher 100 euros. La procédure est facile et rapide. Puis ce sera la semaine prochaine au tour des salariés à domicile. Avec là, reconnaît le ministre du Budget Olivier Dussopt, quelques difficultés encore à régler.
Les salariés à domicile sont nombreux et ils ont souvent beaucoup de particuliers employeurs. Dans ce cas-là, nous avons simplifié le système. Ce sont les URSSAF qui vont verser. Sur 1 million de salariés de particuliers, les URSSAF disposent de 400 000 RIB, 400 000 coordonnées bancaires. Et ils travaillent à récupérer, pardon pour le terme, les coordonnées des salariés dont ils n'ont pas les coordonnées bancaires pour que tout le monde soit couvert.
Pour les salariés, ce sont les employeurs qui verseront les 100 euros, en décembre dans le privé, en janvier dans le public, et l'État remboursera via un crédit sur les cotisations patronales. Les agriculteurs, les demandeurs d'emploi, les bénéficiaires de minima sociaux, les indépendants, les micro-entrepreneurs recevront leur indemnité entre fin décembre et fin janvier. Les retraités, eux, devront attendre le mois de février. Cette indemnité inflation, mais aussi le chèque énergie et les mesures dites de protection des consommateurs consommateurs devrait coûter à l'État entre 6 et 12 milliards d'euros.
Et justement, le chèque énergie dont parlait à l'instant Anne Soubiran, cette fois sera d'un montant de 100 euros, sera versé à partir de demain et jusqu'au 22 décembre aux 5 800 000 ménages qui sont concernés. L'épidémie de coronavirus avec cette déclaration d'Olivier Véran au journal Le Parisien. Nous ne nous dirigeons pas vers un confinement, explique le ministre de la Santé, précisant que le pic de la cinquième vague est en train d'être atteint. Olivier Véran recommande malgré tout de restreindre ses contacts avant Noël. Le rail va connaître plusieurs changements ou bouleversements à partir d'aujourd'hui et dans les jours qui viennent. 5 ans après avoir failli complètement disparaître, 3 trains de nuit sont remis en service par la SNCF. Inauguration ce soir du Paris-Lourdes et du Paris-Briançon et demain du Vienne-Paris. Et ce matin, Jean Castex, le Premier ministre, a inauguré la ligne ferroviaire entre Épinal et Saint-Dié-les-Vosges, fermée depuis 2018. 21 millions d'euros financés par la région et l'État. Les trains vont donc à nouveau circuler entre Épinal et Saint-Dié, et le gouvernement veut en faire un symbole. Vanessa Lomel, secrétaire générale de la CFDT Cheminots en Lorraine, se satisfait de cet investissement, mais elle estime que c'est un affichage anecdotique et localisé.
Pour la CFDT Cheminots, la réouverture de cette petite ligne, c'est vraiment un affichage politique. On aimerait que ce soit légion et régulier et que ça s'étende sur l'ensemble du territoire pour un maintien de service public. Mais là, c'est vraiment anecdotique et c'est vraiment un affichage politique localisé. Les petites lignes souffrent d'un sous-investissement chronique et qui n'est pas d'aujourd'hui. Ça date pas d'aujourd'hui. Le ferroviaire, ça doit être un service public et un service public de qualité avec les investissements nécessaires à assurer un trafic fluide, qui soit disponible et corresponde aux besoins des territoires en toute sécurité et dans des délais raisonnables. Ça pourrait être une bonne nouvelle si c'était les prémices d'une généralisation. On sait que c'est un affichage, on sait qu'il n'y en a pas assez et on sait que tout n'est pas réglé par l'ouverture de cette ligne-là, quand il y en a tant d'autres qui pourraient être bénéfiques aux populations.
Vanessa Lomel avec Thierry Collin de France Bleu Sud-Lorraine. Le sport avec la première ligne aujourd'hui, c'est le Grand Prix de Formule 1 d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis avec le duel du jour entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Les deux prétendants au titre sont donc en première ligne sur la grille de départ. Bonjour Guillaume Batin.
Bonjour Frédéric.
Deux champions, deux générations qui beaucoup de choses opposent.
Oui, Sir Lewis Hamilton n'a pas toujours été riche et célèbre. Il naît dans la banlieue nord de Londres et sa famille modeste, originaire de la Grenade, est victime de racisme, de moquerie. Nous avions une maison pourrie, une voiture pourrie, une remorque pourrie, raconte Lewis Hamilton. Sur les circuits de karting, les parents des autres jeunes pilotes lui disent qu'il n'a pas sa place dans ce monde-là. Pour se défendre du racisme et des coups qu'il encaisse physiquement sans rien dire, il demande à son père de l'inscrire dans un sport de combat. Il rêve du karaté, ce sera la boxe à partir de 6 ans.
Et face à lui, le jeune loup, Max Verstappen.
Qui lui aussi a une enfance difficile. Max Verstappen naît dans une famille aisée aux Pays-Bas. Son père, Jos Verstappen, roule en Formule 1, un père caractériel qui hurle et tape son fils quand les résultats ne sont pas au rendez-vous sur les pistes de karting. Max raconte qu'il se crée une carapace pour encaisser la colère de son père et les mots qui blessent. Il me traitait de moins que rien, d'idiot du village. Il disait que je finirais chauffeur de camion. Un chauffeur qui sera peut-être champion du monde tout à l'heure de Formule 1.
Guillaume Batin, merci. Je reviens un instant sur la Nouvelle-Calédonie et la victoire écrasante du non. Le président Emmanuel Macron est en train de s'exprimer. Emmanuel Macron déclare qu'il accueille avec respect et humilité le résultat du vote et il explique que la période de transition qui s'ouvre pour sortir de l'opposition binaire au sujet de l'indépendance. Voilà la déclaration d'Emmanuel Macron en ce moment sur la Nouvelle-Calédonie. Pour terminer, on va revenir sur le concours des Miss. La nouvelle Miss France 2022, Diane Leyre, explique s'être réveillée ce matin avec des étoiles dans les yeux. Elle ajoute qu'elle veut représenter la femme française de 2022, une femme forte, libre, engagée et fière d'être féministe et Miss France. Autre concours ce soir, un peu plus politique, le concours de Miss Univers. Il se tient en Israël dans la station balnéaire d'Elat, sur la mer Rouge. Israël qui a mené une campagne de rappel contre le Covid très efficace depuis le mois d'août. Il veut faire de cette compétition la vitrine de la réouverture de ses frontières aux touristes. Mais l'émergence du nouveau variant Omicron oblige le pays à se refermer à nouveau. Mais Miss Univers 2021 ce soir à Eilat sera comme l'Eurovision en 2019 à Tel Aviv, une grande opération de communication pour Israël. Sur place à Jérusalem, Frédéric Mettezo.
Bain de soleil au bord d'une piscine turquoise, séance photo dans le désert de rocaille ocre et plongée sous-marine pour voir les coraux. Les Miss font la promotion de la Dolce Vita à l'israélienne, 29 degrés à l'ombre aujourd'hui. À la télévision, on les voit ravis, comme Miss Japon.
Je crois que ce qui m'a le plus plu ici, ce sont les gens. Nous avons reçu un accueil très chaleureux et j'ai beaucoup aimé les valeurs familiales qu'il y a.
Mais la visite très photographiée des Miss dans la vieille ville de Jérusalem, considérée comme territoire occupé par le droit international, ou bien leur danse en tenue palestinienne, ont rendu furieuses les associations de défense des Palestiniens qui dénoncent une appropriation culturelle. Miss Kenya s'est permis un discours légèrement engagé.
Je crois qu'il faut qu'il y ait plus de gens qui viennent en Israël pour découvrir le pays, car c'est le berceau de l'histoire juive, mais aussi musulmane et chrétienne.
Ce soir, sur scène, Miss Maroc et Miss Bahreïn symbolisent la reconnaissance mutuelle entre ces deux pays arabes et Israël il y a un an. Pour les autorités israéliennes, 600 millions de téléspectateurs suivront la compétition à la télévision. Jérusalem, Frédéric Mettezo, France Inter.
Et donc ce soir, il s'agira de succéder à Miss Mexique et pour la France, c'est Clémence Bottineau qui portera nos couleurs à Eilat. Le temps pour cet après-midi et pour demain.
La météo avec les poulets de Loué. Régalez-vous d'un savoureux poulet fermier de Loué, élevé en liberté. Loué, libre par nature.
Jean-Michel Golinski.
Une France carrément coupée en deux cet après-midi avec du soleil au sud d'une ligne Bordeaux-Besançon. En revanche, plus haut, maintien d'un ciel souvent bien gris et d'une ambiance humide. Les températures maximales vont évoluer entre 4 et 7 degrés du Grand Est à Rhône-Alpes et entre 9 et 15 ailleurs. Il est prévu 4 à Dijon, 5 à Grenoble, 7 à Metz et Lyon. Il fera 9 à Reims et à Nevers, 11 à Toulouse, Limoges, Paris et Lille, 13 à Caen, Brest et Bordeaux, 15 à Nice et Bastia et 16 degrés à Perpignan. À noter le risque d'avalanche toujours très marqué pour les Alpes du Nord et l'Est des Pyrénées. Demain, nous aurons pratiquement le même découpage avec du soleil au sud et le maintien d'un temps très gris et quelque peu humide sur toute la moitié nord du pays avec par-dessous souvent du brouillard.
Jean-Michel Golinski de Météo France.